Afrique. Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Oud Abdelaziz a été écroué hier soir sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée, dans laquelle il a été inculpé en mars. Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, nous donnera les détails. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier la mort d'11 policiers lundi dans une embuscade de djihadistes présumés dans le nord du pays. Michel Joseph fera le point. Un site abritant depuis 2013 des milliers de réfugiés maliens dans l'ouest du Niger, près du Mali, était devenu une grande plateforme de l'insécurité, a affirmé hier le président nigérien Mohamed Bazoum, pour justifier sa fermeture. Au Nigeria, 15 otages nigérians, dont 12 élèves, ont réussi à échapper à leurs ravisseurs des semaines après avoir été enlevés avec plus de 130 enfants et professeurs de leur école. Gravé dans le marbre, la tenue d'élections en Libye en fin d'année et écarté toute troupe étrangère et tout mercenaire, les principaux pays impliqués dans le conflit se réunissent ce mercredi à Berlin, en Allemagne, pour un nouveau sommet. Eric Manirakiza y reviendra en seconde partie de cette édition. 10 Russes présentés comme des touristes ont été interceptés il y a une semaine dans une zone dangereuse du nord du Tchad, non loin de la frontière libyenne, et sont consignés dans un hôtel de N'Djamena. Mais ils ne sont pas en état d'arrestation. Après vérification par les services compétents, ce sont en effet des touristes, a dit hier à l'AFP un haut responsable tchadien qui a requis l'anonymat. En République démocratique du Congo, tollé suite à l'octroi d'un véhicule de luxe à chacun des 500 députés congolais par le président Félix Tshisekedi. Eddy Issango fera le point. Par ailleurs, les autorités de Kinshasa ont annoncé avoir renforcé les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la capitale congolaise, épicentre de la pandémie dans le pays. Le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, a interdit sur toute l'étendue de la ville la vente sur la voie publique, le rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics ou privés clos. On attribue la hausse actuelle à la présence du très contagieux variant Delta en RDC. L'ONG Médecins sans frontières a demandé aux autorités camerounaises la reprise de son travail dans le nord-ouest anglophone en proie à un conflit séparatiste, disant que des dizaines de milliers de personnes ont besoin de soins. MSF avait été accusé le 8 décembre de collusion avec les groupes armés locaux. Au Soudan, le premier ministre Abdallah Hamdok tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il appelle des fractures profondément inquiétantes au sein de l'armée et appelle les acteurs politiques et les militaires à l'unité. La Maison-Blanche a concédé hier que l'objectif de vaccination fixé par le président Joe Biden pour le 4 juillet, jour de la fête nationale, serait manqué car 70% des adultes n'auront pas reçu d'ici là au moins une injection de vaccin anti-Covid. Des experts américains doivent se réunir ce mercredi aux États-Unis pour examiner quelques 300 cas d'inflammation au niveau du cœur déclenchés après l'injection de certains vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna contre le COVID-19, notamment chez des adolescents ou de jeunes adultes. Ici à Washington, les sénateurs républicains ont bloqué hier, lors d'un vote de procédure, un projet démocrate de réforme électorale exposant de profondes divisions autour de questions cruciales pour la démocratie, le droit de vote et les différents modes d'accès aux urnes au cœur des contestations du résultat de la présidentielle par l'ancien président américain Donald Trump. L'ancien policier Eric Adams a fait un pas important vers la mairie de New York en arrivant en tête mardi à l'issue des premiers dépouillements de la primaire démocrate. Un séisme de magnitude 6 a frappé hier soir Lima et d'autres secteurs de la côte centrale du Pérou. Pas de victimes ou dégâts immédiatement répertoriés. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C. La suite de nos informations. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Oud Abdelaziz a passé sa première nuit en prison. L'ex-président, qui est poursuivi pour corruption et malgouvernance, a été arrêté mardi soir et placé en détention. Les détails avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
Depuis quelques jours, l'ex-président a tiré les regards sur lui en se rendant à pied à la police trois fois par semaine pour signer et confirmer sa présence à Nouakchott, car il est sous contrôle judiciaire. Dans la rue, il est souvent rejoint par des groupes de jeunes, ce que la police a finalement interdit. En réaction à cette interdiction, Mohamed Oud Abdelaziz a refusé de se présenter dimanche dernier à Nouakchott, et son arrestation interviendra deux jours plus tard. Déjà, l'ex-président a été assigné à résidence après qu'il a été placé sous contrôle judiciaire en mars dernier. En effet, Mohamed Oud Abdelaziz figure sur une liste de 300 personnes, dont des membres de sa famille, des ex-ministres et anciens directeurs de sociétés nationales qu'il avait nommés, inculpés pour corruption, malgouvernance, entrave à la justice et autres. L'ex-président continue à nier les faits. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Dans le nord du Burkina Faso, une dizaine de policiers ont été tués lundi soir dans une embuscade de djihadistes présumés et plusieurs sont toujours portés disparus. Le point avec Michel Joseph.
Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Sécurité du Burkina précise que l'embuscade s'est produite lundi soir sur l'axe Barsalogo-Foubé, dans le centre nord du pays. Un détachement de la police a été visé par une embuscade d'individus armés. Le bilan provisoire est de 11 policiers tués, 7 retrouvés sains et saufs et 4 manquants à l'appel, c'est-à-dire sont toujours portés disparus. Ces policiers faisant partie d'une équipe de relève à Yirgu, un petit village au nord de Barsalogo. Pour rappel, c'est à Yirgu qu'en janvier 2019, au moins 48 personnes ont été tuées lors de représailles contre des membres de la communauté Peul après une attaque djihadiste. À la fin avril, un détachement militaire a été attaqué près de Yirgu. 4 soldats ont été tués. Ce lundi, l'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé 11 djihadistes et détruit 3 bases entre le 14 et le 16 juin. L'armée a aussi annoncé avoir tué une dizaine de terroristes entre le 7 et le 13 juin, après un massacre imputé à des djihadistes dans le village de Solhan. Au début de ce mois, au moins 132 personnes, selon le gouvernement, et 160 selon des sources locales, ont été tués dans ce village proche de la frontière avec le Niger. C'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina depuis le début de la rébellion djihadiste qui a fait plus de 1400 morts et contraint plus d'un million de personnes à fuir leur foyer.
Tollé en République démocratique du Congo suite à l'octroi d'un véhicule de luxe à chacun des 500 députés congolais par le président Félix Tshisekedi. Une ONG menace de saisir la justice pour ce qu'elle qualifie de corruption à ciel ouvert. Eddie Isango fait le point.
Des voix s'élèvent dans la classe politique, tout comme dans la société civile, depuis qu'il circule dans les réseaux sociaux un audio attribué au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso. Cet enregistrement non confirmé laisse entendre que 500 jeeps sont un don du président de la République aux députés pour avoir matérialisé son appel à rejoindre la coalition présidentielle Union sacrée de la nation. Depuis, l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP, une ONG qui se bat contre la corruption, menace d'aller en justice. L'ASADO, une autre ONG des droits de l'homme, prévient que tout député qui prendra un de ses véhicules sera considéré comme corrompu. De son côté, les bureaux de l'Assemblée nationale multiplient des communiqués. Son rapporteur, comme des animateurs de quelques commissions, explique qu'il s'agit d'un prêt obtenu d'une banque que chacun des députés devra rembourser de ses émoluments. Certains députés soutiennent les contraires et refusent d'accepter le véhicule. Et tout ceci fait désordre parce que le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Gabon a reçu des fonds de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale pour ses efforts contre la déforestation. Un paiement de 17 millions de dollars rétribue les réductions d'émissions de CO2 réalisées par le pays en 2016 et 2017, indique le ministère de l'Environnement. Les fonds du CAFI seront consacrés à la foresterie communautaire pour améliorer les revenus et moyens de subsistance en milieu rural. En République démocratique du Congo, l'octroi d'une voiture de luxe à chacun des 500 députés congolais par le président Félix Tshisekedi provoque un tollé. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbozo, a dit que ce cadeau était pour avoir matérialisé son appel à rejoindre la coalition présidentielle Union sacrée de la nation. L'achat de ces véhicules est une corruption à ciel ouvert, a déclaré le président de l'Observatoire de dépenses publiques, Florimond Mouteba, menaçant de saisir la justice. La manne des soutiens publics au secteur agricole dans le monde est mal employée, estime l'OCDE, qui souhaite que l'accent soit davantage mis sur l'innovation. 157 milliards de dollars ont été affectés au secteur pour faire face aux conséquences de la pandémie, indique l'Organisation de coopération et de développement économique dans un rapport sur les politiques agricoles dans une cinquantaine de pays.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Nous ne sommes plus qu'à un mois, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, prévue du 23 juillet au 8 août au Japon. Les différentes délégations ont commencé à fouler le sol japonais sous un strict respect des mesures anti-Covid-19. Arrivée samedi à Tokyo pour les Jeux Olympiques, la délégation ougandaise a été placée en quarantaine après un cas positif au Covid-19, ont annoncé hier les autorités japonaises. Les 8 membres de l'équipe ougandaise qui accompagnaient un entraîneur testé positif à sa descente d'avion à l'aéroport de Tokyo ont été déclarés cas contact et resteront donc placés en quarantaine jusqu'au 3 juillet. Les membres négatifs de l'équipe ont été autorisés à se rendre dans leur camp d'entraînement à Izumisano, près d'Osaka, tandis que leur entraîneur a été isolé. Il s'agit du premier cas positif concernant un participant au JO, je le rappelle, prévu du 23 juillet au 8 août prochain. La fondation de la star ivoirienne du football Didier Drogba a annoncé hier à Abidjan qu'elle va aider à la formation d'un million de jeunes africains issus de milieux défavorisés en vue de réduire la facture numérique. Un partenariat avec la fondation Drogba a été signé avec 01 Talent, une structure spécialisée dans l'identification et la formation de jeunes talents numériques, indique un communiqué signé de l'ancien attaquant vedette de Chelsea et de Marseille. La première zone 01 du continent sera inaugurée à Praia, au Cap-Vert, en septembre 2021, et accueillera 300 Cap-Verdiens et jeunes de 26 autres pays africains partenaires, selon le communiqué. Des nouvelles de l'Euro, les différentes équipes effectuent leur dernière sortie dans la phase de groupe. Dans le groupe E, l'Espagne fait face à la Slovaquie et la Suède joue la Pologne ce soir. Après 2-0 contre la Suède 0-0 et la Pologne 1-1, l'Espagne doit gagner contre la Slovaquie pour se qualifier et garder son destin en main. Dans le groupe F, la France, championne du monde et déjà qualifiée pour les huitièmes, fait face au Portugal, champion d'Europe en titre. Hier, l'Angleterre a battu la République tchèque 1-0 dans le choc entre qualifiés pour les huitièmes de finale à Wembley. Pour s'adjuger la première place du groupe D, Raheem Sterling a ouvert le score à la 12e minute. Les Tchèques, déjà qualifiés, glissent néanmoins à la 3e place, dépassés de justesse par la Croatie qui a battu l'Écosse 3-1 à Glasgow dans l'autre match du groupe. Parlant justement de l'Euro, plus de 60 000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale les 6, 7 et 11 juillet au lieu de 40 000 initialement prévus, a annoncé le gouvernement britannique.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping ont convenu ce lundi, lors d'un entretien téléphonique, de restructurer la colossale dette congolaise envers Pékin, une dette de 1300 milliards de francs CFA qui empêche le Congo de reprendre des négociations avec le Fonds monétaire international. Pour une analyse, Mohamedou Humfa a joint Hervé Telama, enseignant à Howard University ici à Washington.
Il faut d'abord dire que le Congo n'aurait dû jamais avoir de dette avec qui que ce soit parce que le Congo a eu des excédents budgétaires pendant la croissance des prix du baril du pétrole. Donc de 2000 à 2010, le Congo a fait des excédents budgétaires qui étaient énormes. En dehors de ça, en 2008, le Congo est rentré dans un programme sans financement avec le Fonds monétaire international pour devenir éligible au programme PPTE. En 2010, le Congo reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. Et pendant toute cette période de temps, il y a eu des excédents budgétaires qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Le Congo a eu des démarches qui partout dans le monde étaient un peu extravagantes parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent dans leur possession. Donc je peux simplement expliquer la dette. Il y a une dette réelle, il faut comprendre, vis-à-vis de la Chine. Mais il y a aussi une dette qui est la résultante des mécanismes opaques de corruption. Parce qu'en fait, quand je parle de la dette réelle, c'est-à-dire que c'est une dette qui a été engagée avec la Chine, le gouvernement chinois, mais il y a aussi une partie de la dette qui a été engagée par des compagnies privées, certains responsables qui créent des compagnies en association avec des Chinois et qui empruntent de l'argent pour se faire eux-mêmes de l'argent.
Il y a cette dette-là qui est énorme et les deux chefs d'État, hein, les chefs d'État des deux pays auraient convenu de restructurer cette dette. Qu'est-ce que cela pourrait signifier concrètement?
C'est pas la première fois que le gouvernement congolais avec le gouvernement chinois s'engage à une restructuration de la dette. Vous savez qu'en 2019, le Congo était dans un programme avec le Fonds monétaire international et parmi les conditions qu'on avait demandé au Congo, c'était de restructurer sa dette. Elle avait fait, je crois qu'elle avait été arrivée à un moment donné de restructurer sa dette. Le problème, c'est qu'il y a toujours une certaine opacité avec la dette chinoise parce que les créanciers chinois rédigent des clauses de confidentialité qui est aujourd'hui une restructuration de la dette. Ça ne nous étonne pas, mais nous pensons simplement qu'au bout du compte, le résultat est le même. Le Congo est un État en déliquescence. Un gouvernement conduit par M. Sassou Nguesso ne pourra jamais permettre le développement du Congo. Impossible.
Donc le FMI demande aux autorités de rendre cette dette à des niveaux soutenables. Est-ce que le FMI peut faire pression sur les autorités pour améliorer les conditions d'endettement ou le niveau d'endettement du Congo?
Le FMI a déjà 48 mesures qu'ils avaient imposées au gouvernement qui n'ont pas été respectées. Je pense que s'ils n'ont pas respecté ces 48 mesures, ils ne vont pas les respecter maintenant parce que la volonté politique n'existe pas, parce que c'est un problème de dirigeants. Le Congo n'a pas de problème en fin économique, on devrait dire. Le Congo a un problème de gouvernance, de bonne gouvernance.
Hervé Telama, enseignant à Howard University, ici à Washington.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans la forêt classée de la Téné, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, des agents des eaux et forêts mènent la guerre pour la reforestation. Un phénomène dû à la culture de cacao a réduit de 16 à 2 millions d'hectares la superficie de la forêt ivoirienne, selon les experts de l'environnement John Linden.
La forêt classée de la Téné, d'une superficie de 30 000 hectares, est le plus grand centre de bouturage de la Société de développement des plantations forestières, entreprises et d'État spécialisées dans le reboisement. Thierry Kofi Yao, capitaine des eaux et forêts.
La forêt classée de la Téné est l'un des chantiers de reboisement les plus importants de la Côte d'Ivoire. Donc, elle a été plantée essentiellement en teck, en mélina, en fraqué, en framiré et en samba. Donc, à l'origine, ce chantier-là, c'est pour la production intensive de bois d'œuvre.
Les 234 forêts classées de Côte d'Ivoire sont toutes détruites par endroits en raison du réchauffement climatique, des catastrophes naturelles, de l'appauvrissement des sols et de la migration des populations. Une situation à laquelle il faut remédier. Mathieu Ouléa est colonel des eaux et forêts.
Chaque année, nous réalisons des reboisements. Et avec l'apport de nos partenaires, des opérateurs, nous arrivons à réaliser des grandes superficies. Bon, par exemple, cette année, nous avons un opérateur au niveau de Sangoué qui est en train de réaliser 150 hectares dans la forêt classée.
Téné se présente comme le plus important chantier de reboisement du pays. C'est d'ici que sont acheminés chaque année des millions de boutures vers des zones à reboiser, la seule alternative pour sauver ce qu'il reste encore de la forêt ivoirienne. Pour y parvenir, le pays s'est également doté d'une nouvelle politique forestière qui fait une large place au secteur privé, nécessitant 616 milliards de francs CFA d'investissement sur 10 ans dans un partenariat privé-public. Alain Richard Donwawi, ministre ivoirien des Eaux et Forêts.
Alors, chaque année, nous essayons de sensibiliser les populations sur le besoin de s'impliquer dans la reforestation. Parce que ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous comprenne que le gouvernement seul ne pourra pas y arriver. Il faut que chacun soit planteur de forêts, soit planteur d'arbres. Il faudrait que chacun participe à la reforestation en Côte d'Ivoire.
Pour atteindre cet objectif, les autorités ivoiriennes ont instauré depuis 2 années une journée de l'arbre, phase pratique de cette nouvelle politique forestière qui vise à recouvrer 6 millions d'hectares en 2030, soit 20% du territoire national et un accroissement de 3 millions d'hectares de forêt. Pour 2021, le pays vient de lancer une ambitieuse opération de reboisement baptisée « Un jour, 50 millions d'arbres ».
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le gouvernement du Malawi a annoncé mardi son objectif d'éliminer d'ici 2030 le paludisme, l'une des principales causes de décès dans le pays. La maladie propagée par les moustiques représente environ 15% des admissions à l'hôpital au Malawi. Reportage de Lamek Massina de Blantyre. Récit de Rosine Munezero.
S'exprimant lors d'un lancement télévisé d'une initiative nationale de lutte contre le paludisme connue sous le nom de campagne Zéro Malaria commence avec moi, le président Lazarus Chakwera a déclaré que les statistiques sont préoccupantes. Il a déclaré que le paludisme était à l'origine d'environ 36% de tous les cas des services aux consultations externes et 15% de toutes les admissions à l'hôpital au Malawi.
Cela crée beaucoup de travail pour nos agents de santé et une pression sur les médicaments dans nos établissements de santé publique. De plus, le paludisme reste la principale cause des décès au Malawi, faisant 6 morts par jour.
Le président Chakwera avait déclaré l'année dernière que le Malawi avait enregistré 6,9 millions de cas de malaria. Plus d'un tiers de la population a perdu 2500 vies à cause de la maladie. Il a tué plus de Malawiens que toute autre maladie, y compris COVID-19. Le leader du Malawi a déclaré que son administration s'est engagée à faire tout ce qu'il faut pour créer un pays sans paludisme.
Et il est vrai que cet engagement ne peut pas être laissé qu'au gouvernement seul. Le paludisme est un problème collectif qui exige une stratégie collective. Par stratégie collective, je fais référence aux acteurs du secteur privé et aux partenaires au développement qui ont besoin de mettre de l'argent là où ils disent et d'unir leurs ressources aux nôtres pour que nous financions ce combat ensemble.
Monsieur Chakwera a annoncé ce qu'il a appelé les 10 commandements qui aideraient à prévenir et à guérir la maladie. Il s'agit notamment de nettoyer tous les lieux de reproduction des moustiques, de prendre les médicaments prescrits contre le paludisme à temps et de dormir sous une moustiquaire.
Mon administration distribuera 9 258 645 moustiquaires dans 25 districts, ainsi que des pulvérisations dans les districts de Nkatabé, Kota Kota, Balaka et Mangoshi. Actuellement, seulement 55% des Malawiens dorment sous des moustiquaires et nous devons atteindre 100% pour l'emporter.
L'initiative fait partie de la campagne mondiale pour mettre fin au paludisme d'ici 2030. L'initiative du président américain contre le paludisme, lancée en 2005, fait partie des bailleurs de fonds de la campagne. La chef d'équipe du programme au Malawi, Monica Batista, a expliqué comment le paludisme l'affectait personnellement.
Lorsque j'ai commencé à travailler pour le paludisme, ce n'était pas un problème personnel pour moi. Tout cela a changé il y a à peine 6 mois lorsque j'ai perdu un ami cher à cause du paludisme. Désormais, la lutte contre le paludisme m'est personnelle. Je comprends ce que c'est de perdre un être cher à cause de cette maladie évitable.
Elle a déclaré que le gouvernement américain avait contribué au cours des 15 dernières années en environ 270 millions de dollars aux activités de prévention et de contrôle du paludisme au Malawi.
Les progrès que nous avons accomplis contre le paludisme, bien qu'importants, sont délicats et incomplets. Pour vaincre le paludisme, nous aurons besoin d'un effort plus concerté entre le secteur privé, le secteur public et la société civile dans son ensemble.
Madame Batista a déclaré que le lancement de la campagne « Zéro malaria commence avec moi » sert d'appel pour une action.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle conférence aujourd'hui à Berlin sur la Libye. Les discussions vont porter sur les élections et le retrait des forces étrangères du pays. La Turquie devrait subir des pressions pour retirer ses troupes de la Libye. Reportage de Dorian Jones, récit d'Eric Manirakidza.
La conférence de Berlin est la deuxième réunion organisée par l'Allemagne et les Nations Unies. Les discussions vont porter sur la fin définitive de la guerre civile en Libye et la préparation des élections de décembre. L'un des principaux objectifs est la création d'un cadre pour le retrait de tous les combattants étrangers. Aya Bourouila est professeur visiteur au Collège hellénique de défense nationale.
Good governance.
La bonne gouvernance est très difficile à établir en Libye. Il y a des armes partout, il y a des milices partout. Donc la présence de puissances étrangères nuit vraiment à cela. Les Libyens veulent qu'elles partent toutes. Ils veulent un pays normal et surtout ils veulent des élections à la fin de l'année.
La Turquie a déployé des centaines de soldats et des milliers de combattants syriens pour soutenir le gouvernement d'union nationale libyen dans sa lutte contre les forces du général Khalifa Haftar, soutenu par des mercenaires russes. Un cessez-le-feu est en vigueur. Tout en soutenant les appels au retrait des troupes étrangères, Ankara affirmait que sa présence est légitime, car invitée par le gouvernement internationalement reconnu. L'Union européenne et les États-Unis demandent le retrait de toutes les troupes étrangères et la Turquie cherche à améliorer ses liens avec ses alliés occidentaux. Le professeur de relations internationales Serhat Güvenç de l'université Kadir Has d'Istanbul estime qu'Ankara va probablement céder, du moins en partie.
La Turquie finira probablement par accepter les conditions. Ils vont retirer leurs combattants étrangers de Libye, les Syriens, les proxys turcs.
L'année dernière, un rapport du département de la défense américain a indiqué que la Turquie avait envoyé des milliers de combattants syriens rémunérés. Selon Aya Bourouila, ces mercenaires font partie des forces les plus déstabilisantes en Libye.
Ces mercenaires syriens, leur comportement en Libye sont très similaires au nord-est de la Syrie. Pillage, agression sexuelle, violence. Il y a quelque chose de très déstabilisant pour les autochtones de voir des étrangers armés circuler dans leurs rues sans avoir de compte à rendre.
Ankara nie ces accusations. L'armée turque a construit une base aérienne et souhaite établir une base navale en Libye, un projet auquel s'opposent l'Égypte et la France, qui participent également à la conférence de Berlin. Mais M. Güvenç affirmait qu'Ankara considère que sa présence militaire en Libye revêt une importance stratégique.
La Turquie doit garder un pied en Afrique. La base aérienne d'Al-Watiya en Libye offre d'énormes possibilités. Il est donc probable que la Turquie négocie très fort pour conserver cette base.
Selon les analystes, la conférence de Berlin montrait qu'Ankara cherche à équilibrer ses objectifs stratégiques, à savoir améliorer les liens avec ses alliés occidentaux, tout en étendant son influence en Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.